Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue. C'est parti pour deux heures d'infos avec vous, avec à la une cette chaleur. L'été est là, vous en profitez sans doute. Et la star du jour sur RTL, c'est évidemment Louis Baudin. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
En un mot, la tendance Louis pour demain, pour la semaine, on est peut-être parti pour 10 jours de soleil.
Ah oui, peut-être pour 10 jours de soleil, c'est certain. En tout cas, 10 jours sans pluie, hein, c'est ça qui nous inquiète surtout. Tout cela avec du soleil, ce que l'on retrouvera demain sur toutes les régions. Il y aura moins d'orages qu'aujourd'hui en montagne. Et puis les températures toujours plus chaudes. Hein. On sera entre 25 et 28, voire 29 degrés demain, quelle que soit la région.
Vous parliez d'inquiétude, Louis. Dans un quart d'heure, vous allez vous nous éclairer sur la sécheresse. 35% de déficit de pluie sur le pays. Autant dire que les paysans, eux, ils n'apprécient guère cet été avant l'heure. Vous, les auditeurs agriculteurs, vous avez la parole ce soir. Vous nous appelez au 3210 pour échanger à 18h15 avec Louis, parce que qui dit sécheresse dit mauvaise récolte et peut-être in fine hausse des prix une de plus. Les autres titres de l'actu maintenant dans votre journal, Agnès Bonfillon, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Peine plus légère en appel pour François Fillon. L'ancien Premier ministre est condamné à 4 ans de prison, dont un an ferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. À suivre aussi à Moscou un défilé militaire beaucoup moins spectaculaire que d'habitude à l'occasion du 9 mai. Devant le Parlement à Strasbourg, Emmanuel Macron plaide pour une Europe à plusieurs vitesses, on y reviendra. Le résultat du quintet à Compiègne, il fallait jouer le 2, le 5, le 12, le 11 et le 7.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous du phénomène Alcaraz, 19 ans, déjà favori de Roland-Garros après avoir battu Nadal et Djokovic ces derniers jours. 18h40, on va défaire le monde. L'actu autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, vous découvrirez comment la météo joue sur notre consommation. Comment, grâce à des algorithmes, les industriels savent que cette semaine, par exemple, nous boirons 10% de plus de bière que la semaine dernière. Ah oui, c'est la photo soleil. Au menu également, l'union de la gauche qui se fissure déjà et le modèle de voiture qui a le plus fini à la casse en 2021.
Et puis à 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et ses polémistes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Agnès Bonfillon.
Et on commence par ce drame en plein Paris la nuit dernière. Le fils du chef Yannick Aleno, 24 ans, a été tué par un chauffard. En fait, Alice Moreno, tout commence par un vol par ruse.
Oui, un homme de 24 ans se présente dans la soirée devant un restaurant haut de gamme du 7e arrondissement de Paris. Il donne un faux ticket au voiturier, se fait passer pour le propriétaire d'une voiture de luxe. Le voiturier ne détecte pas la ruse, mais entre les mains de cet homme, une Audi, une RS6, valeur de ce type de véhicule, 140 000 euros. Il prend alors la fuite en plein Paris à vive allure.
Et c'est à un feu rouge qu'il provoque l'accident mortel.
Oui, c'est là que le chauffard tente de passer entre un véhicule VTC et un scooters qui sont à l'arrêt, mais il percute les deux. Le conducteur du scooter, Antoine Aleno, 24 ans, est projeté au sol. Il décède suite au choc. Il s'agit bien du fils du chef étoilé Yannick Aleno. La passagère du deux-roues est quant à elle blessée. Le conducteur du VTC souffre également de contusions. Le chauffard tente de s'enfuir à pied, mais il est rapidement interpellé. C'est un homme de 24 ans qui a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie. Il a été transporté à l'hôpital pour des prélèvements.
Merci pour toutes ces informations, Alice Moreno.
François Fillon, condamné en appel, 4 ans de prison dont un an ferme pour l'ancien Premier ministre.
Il est reconnu coupable d'avoir employé de façon fictive son épouse Pénélope. Il se pourvoit en cassation à l'ENAF. Concrètement, ça change quoi?
Alors ça suspend les peines pénales. Ces 4 ans de prison dont un ferme, les 375 000 euros d'amende et les 10 ans d'inéligibilité jusqu'à ce que la Cour de cassation décide de valider cet arrêt ou de le casser. Et là, il y aura un troisième procès. Ça va prendre une petite année. Donc la question de l'aménagement de cette peine avec un bracelet électronique ne se pose plus pour l'instant. En revanche, ça ne suspend pas une autre partie du jugement. Les trois prévenus ont été condamnés à rembourser à l'Assemblée nationale environ 800 000 euros des salaires et de cotisations sociales correspondant à certains contrats de Pénélope Fillon. L'Assemblée nationale pourrait, si elle le souhaite, les réclamer. Pour l'instant, elle n'a pas communiqué.
Alors, Marc Joulot, le suppléant de François Fillon, et donc sa femme, Pénélope, sont également condamné.
Oui, à des peines moins lourdes qu'en première instance, tout comme François Fillon. Pour elle, 2 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende, 2 ans d'inéligibilité. Pour Marc Joulot, 3 ans avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Pour les Fillon, ce sont des peines moins lourdes qu'en première instance parce que la cour d'appel les a blanchis pour le premier contrat, pas pour les suivants. Notez qu'aucun des trois prévenus n'avait fait le déplacement au palais de justice pour entendre la sentence.
Anne Lehenaf du service police-justice de RTL.
RTL, 18h05. On allait voir ce qu'on allait voir. On s'attendait à une démonstration de force lors des cérémonies du jour de la victoire ce matin en Russie, à Moscou.
Finalement, ce fut un défilé classique, moins de troupes que d'habitude, moins de matériel militaire également, et surtout, Sophie Jousselin, pas de Vladimir Poutine ultra menaçant.
Exactement, pas de déclaration de guerre à l'Ukraine, pas de mobilisation des réservistes, pas de menace nucléaire. Vladimir Poutine nous a présenté un discours presque classique pour un 9 mai, c'est-à-dire un hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale qui ont vaincu l'Allemagne nazie. Son discours a surtout aussi été une justification de l'intervention en Ukraine par la présence, selon le président russe, de néo-nazis armés par l'OTAN aux frontières de la Russie.
Une menace absolument inacceptable se constituait directement à nos frontières. Les armes les plus modernes étaient livrées en provenance des pays de l'OTAN. La Russie a stoppé cette agression. C'était la seule bonne décision à prendre.
Alors, est-ce que l'on peut dire, Sophie, que le président russe a tenté de calmer le jeu ce matin ?
Alors, c'est vrai qu'au détour d'une phrase, Vladimir Poutine, en rendant hommage aux vétérans de la Grande Guerre patriotique, a déclaré qu'il fallait tout faire pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas. Donc, on peut interpréter ça comme une tentative de calmer le jeu. Mais il ne faut pas oublier que ce discours est avant tout destiné aux Russes et qu'il faut continuer à leur faire croire que la situation est sous contrôle et surtout que le pays n'est pas en difficulté.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Quelques heures après cette parade, le président du Conseil européen Charles Michel a effectué une visite surprise à Odessa dans le sud de l'Ukraine. Il a d'ailleurs été obligé de s'abriter un moment à cause des frappes russes dans la région.
Avant de se rendre à Berlin pour rencontrer en ce moment même le chancelier Scholz, Emmanuel Macron était à Strasbourg cet après-midi.
Oui, il a prononcé son premier discours de devant le Parlement depuis sa réélection. Le président français assume une Europe à plusieurs vitesses, Julien Fautra.
Oui, absolument. Et le chef de l'État se justifie d'ailleurs un constat d'échec de cette méthode de l'unanimité des 27 pays membres.
Nous sommes le seul syndic de copropriété qui s'interdit de se réunir en syndic de copropriété. Il faut toujours inviter toute la rue.
Je sais parfois les craintes qu'il y a d'une Europe à plusieurs vitesses. Elle existe déjà.
Les coopérations renforcées, Schengen, l'euro, voilà ce qui fonctionne selon Emmanuel Macron. Il veut même prévoir de nouvelles sur la défense, par exemple. Le président de la République est aussi prêt à entrouvrir une porte pour l'Ukraine.
L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre
Union. Il veut créer une nouvelle structure plus large que l'Union européenne et il appellerait cela
une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes adhérant à notre socle de valeurs de trouver un nouvel espace de coopération politique.
Plutôt qu'attendre des dizaines d'années avant une intégration d'Ukraine dans l'Union européenne.
Julien Fautra en direct de Strasbourg pour RTL. Sachez que le gouvernement Castex est convié jeudi à Matignon pour dîner. Cette fois, cela ressemble fort à un dîner d'adieu.
Cette fois. Allez, une petite pause et dans un instant dans RTL Soir, les premières élections professionnelles dans le monde tout nouveau, en quelque sorte, des plateformes petit hic. Peu de chauffeurs VTC et de livreurs sont au courant de cette révolution. À tout de suite.
RTL Soir. Julien Cellier.
Voiturée.
Julien Cellier.
RTL Soir.
18h09, la suite de votre journal de RTL Soir. On parlait de révolution juste avant la pub. C'est effectivement une petite révolution. Pour la première fois en France, ont lieu des élections professionnelles dans le milieu des plateformes.
Oui, toute la semaine, les chauffeurs VTC, mais aussi les livreurs à domicile, peuvent élire leurs représentants syndicaux. Alors, seul petit souci, ils sont encore peu nombreux à être au courant, Arnaud Touche.
Oui, la plupart des livreurs que j'ai croisés aujourd'hui n'étaient même pas du tout au courant. Pourtant, quand j'annonce à Mohamed, livreur depuis 4 ans, qu'il va pouvoir être représenté, bien, c'était un peu une victoire.
Avant, on n'avait pas de syndicat, c'était ça. On avait juste genre un leader. Vous voyez, on va prendre exemple avec les taxieurs. Ils ont un syndicat, ils ont obtenu beaucoup de droits. Ils ne peuvent pas genre baisser un tarif ou augmenter un tarif comme ils veulent.
Obtenir des droits, c'est ce qu'espère aussi Sissoko qui patiente sur son scooter.
Quand on doit se plaindre comme ça, bon, c'est pas où aller, comment faire, tu vois. Ouais. Donc quand on a des syndicats, vraiment, ça nous va droit. Okay. Pour les syndicats, c'est pour nous défendre.
Alors aujourd'hui, 84 000 livreurs en France vont pouvoir voter. Et pour Ludovic Rio de la CGT Livreurs, c'est certes une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore suffisant.
Toutes les organisations qui seront déclarées représentatives, qui auront fait plus de 5% aux élections, eh bien, elles pourront nommer 3 représentants. Ça signifie en revanche que ces 3 représentants, avec seulement 12 heures de délégation par mois, devront représenter en tout 84 000 travailleurs, et qui montre bien qu'il y a un réel mépris pour les droits des travailleurs de plateforme.
Alors néanmoins, la plupart des syndicats et des listes qui se présentent espèrent que les chauffeurs-livreurs vont se mobiliser dans les urnes pour faire enfin entendre leur voix.
Le reportage d'Arnaud Touche pour RTL. Selon des chiffres publiés aujourd'hui, les prix à la pompe sont repartis à la hausse la semaine dernière, plus de 6 centimes par litre en moyenne.
Un adieu. De très nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage à Régine ce matin au Père Lachaise à Paris.
Chanteurs, comédiens, artistes sont venus accompagner la reine de la nuit, mais de nombreux anonymes avaient aussi fait le déplacement.
Je l'adorais. Puis alors, c'était une femme d'affaires, intelligente.
Ben moi, elle représentait Paris, quoi. Parce que moi, je suis une Parisienne. On la voyait régulièrement à la télévision, puis j'aimais bien. Ouais, j'aimais bien cette dame.
Le monde de la nuit, les discothèques, la joie d'aller danser, de profiter de la vie. Et puis quand même, c'était une femme courageuse, avec tout ce qu'elle a vécu, une rescapée. C'est surtout parce qu'elle a représenté la joie, la gaieté pour tout le monde de pouvoir danser.
Quand il est très tard, on la voit rentrer, fumant un cigare.
Des propos recueillis par Laurent Marsic pour RTL.
Allez, on en vient maintenant à cet été qui arrive donc un petit peu en avance, au printemps. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nos agriculteurs, on va en reparler dans un instant avec eux au 3210, mais il y a aussi, il faut bien l'avouer, quelques bons côtés pour la personne lambda, on va dire.
Bah oui, on va pas se mentir. Dans les villes, nos journées prennent une toute autre dimension, surtout quand on prend l'option pique-nique entre midi et deux, comme au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Allez, on suit Léonard Cassette.
Entre les allées du parc, on se croirait presque sur une plage, le sable en moins.
Hop là.
Pas de travail aujourd'hui pour Alexandra et Chloé qui étendent une grande serviette sur l'herbe, au milieu leur glacière.
Bouteille d'eau, petite bouteille de rosée, du houmous, amandes et des chips.
On est prêtes.
C'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est pour prendre le soleil, pour se détendre, fermer les yeux, se sentir à la plage.
Tony, lui, a carrément fait sauter le t-shirt après sa séance de sport.
Je fais un petit footing et je prends le soleil.
Là, c'est la petite pause récompense à la fin de la course.
Ouais, 3-4 heures.
3-4 heures de sieste au soleil.
Vous voulez faire quoi autrement? Franchement, aller au café, tu vois les autres, tu vas jouer aux cartes, tout ça et tout. Bon, ça va, c'est bon, quoi. Là, tu profites, t'es bien, franchement. Ouais.
Et pour les Parisiens qui terminent le travail, il reste aussi l'option terrasse, avec plus de 20 degrés jusque dans la soirée.
Vous savez ce qu'on fait demain midi, Julien?
Un petit pique-nique.
Ah bah exactement, Agnès. Toute l'équipe, allez hop.
Vous préparez les sandwichs? Je
oui,
m'en occupe.
Oui, c'est ça, bien sûr. Et puis des boissons, hein, voilà. Le reportage de Léonard Cassette.
Léonard Cassette a pique-niqué. On entend les Parisiens qui en profitent. Les agriculteurs, eux, s'inquiètent forcément face à ces températures qui grimpent et surtout face à ce soleil qui risque de durer. On va en discuter avec vous, les auditeurs paysans. Vous nous appelez maintenant au 3210. On va vous donner la parole juste après la pause. Quasiment 30 degrés la semaine. Des seins de glace, comment vous vous adaptez, ce qu'il faut craindre pour les récoltes et donc craindre in fine une hausse des prix pour tous les consommateurs qui eux aussi sont en ce moment à l'écoute. On vous attend, vous nous appelez, vous allez pouvoir échanger avec notre Louis Baudin national juste après ça. Louis est présent, fidèle au poste, à tout de suite sur RTL.
RTL soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL soir.
Bonne fin de journée donc, et ce soir RTL vous donne la parole en ce lundi si doux, si chaud, même par endroits. C'est peut-être parti pour 10 jours de soleil, alors vous trouvez ça sans doute très 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 agréable. Attention quand même, ce soleil menace quelque peu nos cultures et peut-être aussi à terme votre porte-monnaie dans les allées du supermarché et des commerçants. Louis Baudin est toujours avec nous, notre spécialiste météo, et vous les agriculteurs, vous les auditeurs paysans, vous avez la parole maintenant au 3210 pour échanger justement avec Louis. Louis, la sécheresse est déjà là avant même ces températures très très agréables. On a 10 départements qui ont dépassé le seuil d'alerte. On a un déficit de plus de 35% sur le pays. Là, ça ne va pas s'arranger dans les 10 jours qui viennent, c'est ça?
C'est quasiment certain qu'effectivement, d'ici le début de semaine prochaine, on n'aura pas de pluie significative. Il y aura probablement quelques orages, quelques pluies ici ou là, notamment entre jeudi et vendredi, mais rien de suffisamment universel, si je puis dire, en tout cas sur tout le territoire, pour atténuer cette sécheresse qui est donc en train de s'installer.
D'autant que la semaine prochaine, il fera peut-être encore plus chaud.
chaud, c'est ça?
Peut-être encore plus chaud, en tout cas, en début de semaine, au moins, hein, restons prudents. Hein, vous savez qu'au-delà de 6-7 jours, on n'est plus très, très fiable.
Ce n'est pas une source exacte.
Exactement, hein, et même souvent le contraire. Donc, restons prudents. Mais c'est vrai que, en tout cas, au moins jusqu'en début de semaine prochaine, il n'y aura pas d'atténuation de la sécheresse, avec même peut-être des températures encore plus élevées.
Alors, Louis, on va accueillir un premier auditeur. Il s'appelle Vincent. Il nous appelle au 3210 depuis l'Indre-et-Loire, où il est viticulteur. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir Louis, bonsoir.
Alors, département où il y a déjà des restrictions l'Indre-et-Loire, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire dans votre activité au quotidien?
Alors nous, en termes de viticulture, on a beaucoup de restrictions à la base, on est en système d'appellation, donc on a interdiction d'arroser nos vignes. On est plus ou moins habitué à s'adapter à la nature, et on met déjà en œuvre des pratiques qu'on met d'habitude en œuvre au mois de juillet ou au mois d'août.
Là, en ce moment, vous mettez en œuvre des pratiques estivales en quelque sorte?
Ouais, c'est ça exactement. Donc la vigne réside dans l'ensemble assez bien à la sécheresse. Par contre, on constate qu'elle commence à peiner, à souffrir un peu. Donc on va accompagner la vigne pour qu'elle souffle le moins possible. Donc on va faire un travail du sol régulier, par exemple, pour éviter le maximum d'évaporation de l'humidité contenue dans le sol.
Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on retourne la terre régulièrement pour permettre à l'humidité d'y rentrer?
Mais de grand-père me disait un binage vaut deux arrosages. Donc on la gratte en superficie pour éviter que ça s'évapore de trop. C'est pas des labours profonds, c'est assez superficiel, mais ça permet d'accompagner la plante, quoi.
Louis, vous confirmez, les viticulteurs, ils vont sans doute devoir s'adapter par endroits dans les années qui viennent?
Ah, de toute façon, l'adaptation, sécheresse, pas sécheresse ou autre, fait partie de l'évolution de l'homme et évidemment de son rapport à la nature. Donc l'adaptation, elle est indispensable. Il y a plusieurs solutions. Effectivement, le bon sens, mais ça, les agriculteurs, je leur fais confiance, ils l'ont. Et puis la technologie, la science, qui va leur permettre peut-être d'avoir de nouveaux outils qui sont à la fois plus performants dans le rapport à la nature et aussi dans la production.
Alors là, on était en Indre-et-Loire, on a d'autres auditeurs qui nous appellent d'ailleurs en France, justement. Louis, si on regarde une carte de France aujourd'hui de la sécheresse, quand on regarde la liste des 10 départements là, par exemple, qui ont dépassé le seuil d'alerte, on se rend compte que finalement ils sont situés un petit peu partout sur le territoire.
Alors là, il faut replacer aussi dans le contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que département par département, les préfets ont pu, pour des raisons de précaution, de gestion du risque, pris des décisions qui ne sont pas forcément unanimes. C'est-à-dire que dans un département voisin, peut-être dans les mêmes conditions, le préfet va dire
attendre.
On aura pris une autre décision, ce qui peut donner.
Mais globalement,
comme ça,
est-ce qu'on a des bassins qui souffrent alors, à différents endroits du territoire?
Exactement. Hein, les bassins, justement, moi je suis régulièrement le BRGM, qui est l'institut qui en France suit l'état des nappes phréatiques. Et c'est vrai que les gros déficits se trouvent près de la Méditerranée, où là on a des bassins qui sont en sécheresse, autour du Languedoc, en Côte d'Azur, et puis également dans le nord-est, ça peut paraître paradoxal, autour du Rhin ou autour de la vallée de la Saône, on a là aussi un déficit des nappes phréatiques. Je ne parle pas de la surface, mais bien des eaux en profondeur.
Tiens, on parlait des zones méditerranéennes, on va accueillir Thomas maintenant, qui est maraîcher dans le Gard. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Racontez-nous un petit peu comment vous vous organisez, vous le maraîcher, donc dans ce département où il fait si chaud régulièrement.
On prépare comme Vincent en Indre-et-Loire, où on gratte un peu la terre, ça marche bien, c'est une bonne technique. Et après, moi je suis au bord du Gardon. Ma nappe phréatique n'est pas très profonde. Donc j'ai quand même un peu d'eau qui tient, mais c'est vrai que là pour l'instant encore ça va. Mais c'est vrai qu'en plein été, en pleine saison estivale, c'est compliqué. En plus on a des restrictions de pompage.
Soyons clairs Thomas, si les nappes sont à sec, fatalement la récolte est moins bonne, c'est ça?
Oui, parce que la culture, elle va survivre au lieu de vivre. Elle pensera plus à pousser qu'à produire.
Et pour nous, très égoïstement, Thomas, récolte moins bonne, ça veut dire fatalement des prix plus chers?
Oui, alors moi, là, à mon niveau,
votre échelle,
c'est une petite exploitation en vente directe. Je peux travailler un peu sur ma marge, faire quand même pas trop bouger mon prix.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai qu'au niveau grosse exploitation, c'est sûr que ça peut impacter.
Louis, on parlait des nappes, et notamment dans la région méditerranéenne. Dans le Vaucluse, je lisais un chiffre tout à l'heure, vraiment qui interpelle, le déficit pluviométrique sur l'année de l'ordre de 70%. Ça veut dire que là, les agriculteurs, ils attaquent le printemps et l'été avec des nappes qui n'ont pas eu leurs réserves hivernales, en quelque sorte.
Alors exactement, mais il faut savoir d'où vient également la nappe. Parfois, la nappe descend des Alpes, donc il faut aussi voir si l'enneigement a été suffisant, et l'enneigement est encore fort pour alimenter les rivières et donc les nappes à terme durant les prochains mois. Donc tout ça est un équilibre à trouver. Alors c'est vrai que la sécheresse de surface, là, elle est indéniable. Il faut voir si dans le temps, maintenant, de nouvelles pluies vont arriver. Et puis surtout, si ces pluies qui vont venir de la fonte des neiges va pouvoir compenser un petit peu cette sécheresse.
Allez, on accueille un dernier auditeur. C'est Guillaume qui nous appelle de Lyon, où il est éleveur. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Julien, bonsoir Louis.
Bonsoir.
Vous, votre crainte, c'est l'absence de fourrage dans les mois qui viennent pour vos bêtes, c'est ça?
Ah bah là c'est la cerise sur le gâteau parce que avec l'envolée des prix des céréales depuis quelques mois notamment en raison de la guerre, on s'était dit qu'on allait se rabattre sur en donnant un petit peu plus de fourrage aux bêtes cet hiver et en réduisant sur la partie céréales. Bah là c'est ça paraît très mal engagé hein, parce qu'effectivement ça fait des semaines que on a le vent du nord chez nous dans l'Yonne là donc ça a desséché. On a eu des précipitations pendant l'hiver mais ça a séché tout courant mars et avril, ça a séché très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Et là on est en train de se demander comment on va faire, est-ce qu'il faut intervenir maintenant à récolter des fourrages pour essayer de sauver ce qui peut l'être, ou on espère qu'il fera un petit peu meilleur, moins beau d'y avoir des précipitations par la suite. C'est le bonheur des uns fait le malheur des autres.
Toujours.
Et on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, on est tôt, hein. on est le 9 mai, aller faire des foins à cette époque-là, moi je ne suis pas vraiment partisan de ça, mais je crois qu'on va y être contraint.
Il y a beaucoup d'incertitudes, mais vous disiez le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais le malheur des uns fait parfois le malheur des autres. On parlait des prix, je suis désolé d'y revenir, c'est un peu égoïste, mais vous êtes à la fois éleveur, vous êtes aussi boucher, vous êtes aussi restaurateur, vous avez vraiment tout le spectre, on va dire, de la chaîne, Guillaume. Ça veut dire que fatalement, quand il y a des soucis en termes de fourrage, en termes de céréales, ça se ressent au niveau des prix aussi.
Puis de tout, comme j'ai diversifié l'activité, j'ai un peu diversifié aussi les sources de tracas, mais là, avec ma garde rapprochée autour de moi, que ce soit mon chef, le chef boucher ou mon pote qui bosse avec moi à la viande, on est en train de se dire qu'on est obligé de corriger les tarifs tous les mois, d'appliquer des hausses. Moi, ça m'était jamais arrivé en 16 ans, de refaire, on faisait un tarif à l'année, puis on a essayé de s'y tenir pour être cohérent avec les clients. Mais là, même au restaurant, une autre chose, juste on fait plus de frites parce qu'on trouve plus d'huile. Donc c'est vraiment une période un peu compliquée pour ce qui est de tenir les business.
C'est une période qui est assez difficile. On espère que la pluie va tomber quand même, ça simplifierait beaucoup de choses. Juste Louis, dites-nous, là c'est la semaine des Saintes Glaces, sous parfois quasi 30 degrés dans certaines régions. Est-ce que c'est inédit et est-ce que c'est de plus en plus courant?
Non, c'est pas inédit. Alors est-ce que c'est de plus en plus courant? Non, on peut pas le dire non plus. J'ai regardé un peu les dernières années. L'an dernier par exemple, on était sous un printemps pluvieux, plutôt frais. Les années d'avant, pendant le Covid, on se souvient tous de ce printemps particulièrement doux, et puis si on remonte encore avant, il y a eu aussi... Donc non, c'est pas...
Mais on a des pluies plus irrégulières, c'est ça ?
Alors voilà. D'ailleurs, les quantités de pluie, c'est ça qui est assez étonnant, sur l'année en France, bougent très peu, sauf sur l'arc méditerranéen, où là, on sent bien quand même qu'il y a un déficit. Mais ailleurs, non, les quantités de pluie sont les mêmes, elles tombent différemment, elles tombent peut-être de manière plus intense, peut-être sur des durées moins longues. D'ailleurs, ça pose ou ça interroge sur la façon dont on va pouvoir demain retenir cette eau.
C'est le défi.
C'est le défi, hein, une meilleure gestion de l'eau pour pouvoir rééquilibrer peut-être ces disparités de la nature. Et malheureusement, au-delà de 10 jours, j'en sais rien. Peut-être que la fin du mois de mai sera au contraire très pluvieuse et sauvera un peu les choses.
Tout ce qu'on souhaite à nos agriculteurs.
Moi
merci
aussi.
Louis, en tout cas, de nous avoir éclairé, on va dire, sur cette météo. Nous, on essaie de voir à moyen terme, là, avec cette sécheresse donc, qui s'installe dans certains départements. On craint un petit peu pour le printemps et l'été. Et merci à vous, les auditeurs. Merci à Guillaume, merci à Thomas, merci à Vincent, merci à tous les trois du côté de l'Indre-et-Loire, du Gard et de Lyon, de nous avoir apporté votre expertise de terrain. Vous les auditeurs agriculteurs ce soir au 32-10. Merci à tous les quatre.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
Et RTL Soir revient dans un instant avec vos dessous de l'actu. Les dessous ce soir de l'éclosion du nouveau génie du tennis, Alcaraz, espagnol, 18 ans. Il vient de gagner à Madrid en éliminant Nadal et Djokovic. Roland Garros l'attend déjà. Et puis laissez-vous tenter dernière. Le portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol aux enchères. Si vous voulez casser votre PEL, c'est maintenant. Ça coûte 200 millions de dollars. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Bonne fin de journée avec RTL, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous nous rejoignez, Agnès se charge de vous rappeler les trois grandes infos du soir.
Nouvelle condamnation, mais plus légère qu'en première instance pour François Fillon. L'ancien Premier ministre est condamné à 4 ans de prison, dont un an ferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Cette dernière écope de 2 ans avec sursis. L'ancien suppléant de François Fillon, Marc Joulot, est condamné à 3 ans avec sursis. Les trois se pourvoient en cassation.
Selon des chiffres publiés aujourd'hui, les prix à la pompe repartent à la hausse, sont repartis à la hausse la semaine dernière. Tous les carburants sont concernés, plus de 6 centimes par litre en moyenne. Les bourses européennes clôturent en fort repli. Paris perd 2,75%, Francfort cède 2,15%, Londres 2,32%. La bourse de New York est en ses pertes également. Le Nasdaq lâche plus de 3,75% en milieu de séance.
Merci Agnès. Le temps, Louis, on y revient à court terme. Là, pour demain, qu'est-ce que ça va donner ?
Eh bien, ça va donner encore du temps sec, ensoleillé. Alors, avec un petit voile nuageux quand même dans la moitié nord. Ce ne sera pas aussi limpide qu'aujourd'hui. Toujours un risque d'orage sur les Alpes. Puis, on aura beaucoup moins sur les Pyrénées et l'Auvergne. Et puis, côté température, bah, toujours des valeurs estivales. Hein. Le matin sera déjà entre 10 et 15 degrés. L'après-midi, 25 à 29 degrés, quelle que soit la région.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir de l'éclosion d'un certain Carlos Alcaraz. Retenez ce nom parce que c'est le nouveau phénomène du tennis mondial. 19 ans seulement, espagnol et déjà dans la liste des favoris à 15 jours de Roland-Garros. Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Hier, Alcaraz a gagné le tournoi de Madrid. C'est un peu une des répétitions de Roland. Il a balayé en deux manches le numéro 3 mondial Zverev. En quart et en demi, il a sorti Nadal et Djokovic. Rien que ça. Eric, c'est qui ce gamin que le grand public est en train de découvrir ?
Eh bien, c'est le petit nouveau qui a déjà presque tout d'un grand. Alors surtout, ne vous fiez pas à sa bouche juvénile parsemée d'acné, à son sourire timide et à son goût d'ado pour le karting et les jeux vidéo. Le natif d'El Palmar, c'est un bourg de Murcie façonné à l'Académie Villena près d'Alicante par son coach Juan Carlos Ferrero, lauréat de Roland-Garros en 2003, souvenez-vous, est une véritable tornade qui emporte tout sur les cours.
Il est si fort que ça, cet Alcaraz ?
Aucun doute là-dessus. Vous pouvez bannir le conditionnel et réviser les superlatif pour le futur. En mai 2021, Alcaraz pointé au 120e rang du classement ATP. Ce lundi, il est déjà 6e. Une première victoire chez les pros à 16 ans. Un premier titre à Umag à 18 contre Gasquet en finale. Un premier match référence en Grand Chelem avec un succès en 5-7 et plus de 4 heures contre Tsitsipas lors du dernier US Open. Et puis, ce coup d'accélérateur brutal cette saison avec 28 victoires et 4 titres, dont 2 Masters 1000 à Miami et Madrid. Les sponsors l'ont d'ailleurs bien compris. À 19 ans, Carlos Alcaraz est déjà, comme Roger Federer, ambassadeur d'une célèbre marque de montres de luxe, vous savez, celle qu'on porte à son poignet avant 50 ans, quand on a réussi sa vie.
Alors, il est espagnol, il gagne sur terre battue. Fatalement, tout le monde le compare déjà à Nadal. Est-ce que la comparaison est justifiée ?
Elle l'est, indéniablement. Sa nationalité, sa précocité, ses biceps, sa puissance, sa hargne, sa vélocité, sa haine de la défaite, son humilité, tout chez Alcaraz fait penser à Nadal, son idole. Mais le gamin répète inlassablement qu'il veut écrire son histoire. Et si Nadal avait construit les premières lignes de son immense palmarès sur des défenses mémorables, Alcaraz, lui, est plus offensif, plus agressif, tout en maîtrisant à merveille l'art de l'amorti. Et c'est même peut-être sur dur qu'il est le plus à l'aise, et surtout, son plus grand rêve n'est pas de remporter Roland-Garros, mais Wimbledon.
Bon, vivement Roland-Garros. En tout cas, c'est dans 15 jours et on a très 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 envie de reparler de ce Carlos Alcaraz pendant la quinzaine. Porte d'Auteuil, les dessous du phénomène espagnol avec Eric Silvestro ce soir. Merci Eric.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et place à Laissez-vous tenter, dernière maintenant avec l'un des événements des prochaines heures. C'est Monique Younes qui est venue ici en studio pour nous en parler et on en est ravis. Bonsoir Monique.
Bonsoir.
Un portrait de Marilyn Monroe, ouais, d'un mètre sur un mètre, réalisé par un certain Andy Warhol, sur fond turquoise, sera mise en vente aux enchères. Ce sera à 1h du matin, tout à l'heure par Christie's à New York. Sérigraphie estimée à 200 millions de dollars,
yes,
rien que ça, qui va peut-être devenir l'une des œuvres d'art parmi les plus chères du XXe siècle. Comment se décide d'ailleurs le prix d'un tel tableau ? Comment on se dit, bon bah tiens, c'est 200 millions ?
Vous savez, il y a plusieurs facteurs. D'abord, la notoriété de l'artiste. Et comme vous savez, Andy Warhol est considéré comme le maître du pop art, ce qui n'est pas rien. Ensuite, il y a le sujet. Marilyn Monroe est considérée comme la plus grande star du cinéma mondial. Et ça non plus, ça n'est pas gratuit. Et tous les deux sont des légendes, on est bien d'accord. Ensuite, il y a ta technique d'impression sur lin qu'a utilisée Andy Warhol en 1964 pour réaliser ce portrait. Et de la vie de tous les spécialistes, c'est la plus aboutie et la plus méticuleuse qu'Andy Warhol ait réalisée. C'était tellement difficile à exécuter qu'il n'a fait que 5 versions de sa Marilyn. Une version dorée qui se trouve aujourd'hui au MoMA à New York et des versions orange, rouge et bleu qui sont dans des collections privées. Et puis, il ne faut pas oublier la spéculation. La rumeur dit que la version orange de Marilyn a été vendue en 2018 de gré à gré à 200 millions de dollars. Donc Christie's n'allait pas estimer ce tirage turquoise à moins.
Alors 200 millions, c'est quand même énorme pour une œuvre récente du 20e siècle. On a tous en tête le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci qui s'est vendu à 450 millions de dollars en 2017. Mais c'était Léonard de Vinci.
C'est vrai, c'était Léonard, mais ça n'était pas la Joconde. Or, Marilyn Monroe, c'est la Joconde du XXe siècle, la Marilyn Monroe de Warhol, bien évidemment. Et puis, à ce niveau-là, je vais vous dire, ça sera toujours une bonne affaire. Car dès lors que l'acheteur a mis ce prix pour l'acquérir...
Parce que dès lors que l'acheteur a mis ce prix pour l'acquérir,
son tableau n'a plus de prix. Il a une valeur symbolique, historique, culturelle, qui ne peut plus baisser.
Et elle appartenait à qui, cette Marilyn?
Alors, ça aussi, c'est très important à la provenance. Elle appartenait au galeriste et collectionneur suisse Thomas Hamann, qui a connu Warhol aux États-Unis avant de fonder sa galerie avec sa sœur Doris à Zurich, puis leur fondation d'art. Et Thomas Hamann avait acheté sa Marilyn auprès d'un important collectionneur new-yorkais au début des années 80 et elle n'est jamais sortie de sa collection.
Alors, mais qui va l'acheter? Qui sont les éventuels acheteurs? À part Louis Baudin, bien entendu. Mais
peut-être Carlos Alcaraz, hein, on ne sait pas. Alors, ça peut être des Américains, parce que la notoriété de Warhol est très importante là-bas, mais aussi elle dépasse les frontières. Donc les Asiatiques sont sur les rangs. Les collectionneurs du Golfe aussi peuvent être intéressés. Il faut savoir que le marché de l'art se porte à merveille aujourd'hui. Les transactions caracolent, malgré la crise. Le résultat de la vente est un événement qui risque de booster encore le marché. Et c'est pour ça que ce qui va se passer ce soir à New York va être très très scruté dans le monde de l'art.
On va le scruter. 1h du matin, c'est ça?
1h du matin. Chez Christie's, on peut suivre ça ou sur Internet, bien évidemment.
On peut tout suivre sur Internet, puis on va surtout suivre ça dans la matinale demain, dès 4h30, dans les petits matins de Jérôme Florin. On connaîtra le montant de la vente, qui sera sans doute historique, et on y reviendra.
Et Yves Calvi aura un spécialiste chez Christie's à 9h, pour en parler.
Très bien, parfait. On parlera donc de Marilyn et de Andy demain matin. Merci beaucoup, chère Monique, de nous avoir raconté l'avant-vente ce soir dans Laissez-vous tenter dernière. Dans un instant, la suite, c'est On défait le monde avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. On va continuer de parler.
Nous aussi, on est sur les rangs.
Météo. Ah, vous êtes aussi sur les rangs
avec
pour
toute l'équipe
Marilyn.
On s'est quotidien dans une quête.
Louis sort le carnet de chèques, là, vous le voyez pas en studio. Il a volontairement, il est parti de la caméra.
Quelques centaines d'euros,
c'est rien. C'est rien. On va défaire la liste de courses dans un instant parce qu'on parle beaucoup météo avec Louis depuis le début de cette émission. Et c'est vrai que quand la température grimpe, on arrête d'acheter de la Ligo et on achète d'autres produits, des sorbets, de la bière notamment. On va en discuter juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.